Donc on a commencé le Perek Membet, chapitre 42. On a commencé à expliquer le on a ramené le pasouk qui dit que Moshe Rabbeinu il s'adresse au peuple juif au nom de Dieu et il dit Va'ata Israël ma Hashem Elokecha Shoel Meimar. Il dit maintenant Israël, qu'est-ce que Hashem demande de toi? Ki im leira, seulement de le craindre. Mara pose la question. Mara a dit, est-ce que craindre Dieu c'est quelque chose de facile, quelque chose de petit? Qu'est-ce qu'il répond à la Gemara?
Gemara
répond et dit oui, pour Moshe c'est quelque chose de petit. La question qu'on a posée, c'est qu'a priori on n'a pas répondu à la question. Pour Moshe, on s'en doute pas que c'est facile.
Oui, on se rappelle.
D'accord. Ouais. Pour Moshe, on s'en doute pas que c'est facile. Certainement que c'est facile, mais on parle de nous. D'accord? Nous autres qui vivons à Paris en 2009, c'est pas facile.
Nous les Baltiques, pas toi.
Bon. Ouais. Alors, ouais. Donc comment la Gemara a répondu à la question et comment on peut dire que ce que Kadosh Baruch Hu a dit que Ve'ata Israël ma Hashem Elokecha Shoel Meimar, c'est comme on dit à quelqu'un, un enfant, on dit mais qu'est-ce qu'il y a déjà, qu'est-ce que je te demande déjà, porter un petit sac, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu fais, on dirait que je sais pas ce que je t'ai demandé. Il rate Hashem. Tu dis oui par rapport à Moshe, bien sûr. Si tu amènes quelqu'un qui sait porter 200 kilos, c'est rien pour lui 50 kilos, mais pour moi c'est beaucoup. Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar. Alors là, le Morazaken a commencé à développer la réponse à cette question. Il a dit que quand la Gemara a dit que par rapport à Moshe, c'est quelque chose de petit, de craindre Dieu. Qu'est-ce qu'on veut dire? On s'adresse pas seulement à Moshe Rabbeinu, mais on s'adresse à chaque personne du peuple juif. Et on va essayer de faire appel au niveau de Moshe Rabbeinu qu'il a dans sa Neshama. Donc on a expliqué longuement comment il y avait les sept branches de la menorah qui correspondaient aux sept rois d'Israël, aux sept bergers d'Israël. Mais qu'on a expliqué que la clé principale, le berger principal, c'était qui? C'était Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu? Parce qu'on a dit que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a enseigné Da'at. Bon, on a toujours pas expliqué qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Da'at. On a expliqué que Da'at est très important, mais on n'a pas vraiment expliqué pourquoi Da'at, Moshe Rabbeinu, pourquoi c'est plus important. Avant de commencer à expliquer ce que c'est Da'at, qu'on va développer Bezrat Hashem aujourd'hui, en tout cas on va commencer à développer aujourd'hui, je voudrais juste rappeler ce qu'on a expliqué la semaine dernière. On a expliqué que Moshe Rabbeinu, d'accord, il fait plusieurs choses. Tout d'abord, Moshe Rabbeinu, il amène le niveau de Da'at chez chaque personne du peuple juif. On a expliqué que c'est quoi la menorah, quand on parle de la menorah. On dit que chaque personne des sept bergers du peuple juif, qui sont Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, il va inspirer chaque juif d'une des sept midot d'Akadosh Baruch.
Affective.
Seulement quoi? Il y aura un dosage qui va faire qu'on sera chacun différent l'un de l'autre. C'est ce qu'on a expliqué. Mais oui. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui va donner le passe-partout. C'est lui qui va donner la clé qui est Da'at, qu'on va développer aujourd'hui. Donc on a dit tout d'abord, Moshe Rabbeinu va inspirer chaque personne du peuple juif, comme on va développer aujourd'hui. Mais à part ça, on avait ouvert une parenthèse dans laquelle on avait expliqué que les tzadikim de chaque génération, et pas n'importe quel tzadikim, les tzadikim qui décident de s'occuper du Ham Israël, qui décident de s'occuper du Ham Israël, de devenir les aînés Aïda, les yeux de la génération, les guides de la génération, on dit que ces tzadikim-là, ils vont avoir un bonus, c'est qu'ils vont avoir en eux un nitzot de Moshe Rabbeinu. D'accord, c'est pas une ahara. C'est-à-dire c'est pas une lumière de Moshe Rabbeinu comme nous on a, mais c'est une étincelle de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'ils ont du Moshe Rabbeinu en brut en eux. Ça veut dire que quand ils vont travailler, quand ils vont nous aider, quand ils vont s'occuper de nous, c'est comme si qu'on a Moshe Rabbeinu qui est en train de s'occuper de nous. On avait conclu sur le point. On avait dit qu'en vérité chez le tzaddik, l'étincelle de Moshe Rabbeinu, elle s'habite dans le gouf v'nefesh, dans le corps et dans l'âme du tzaddik. C'est pour ça qu'on a expliqué que le fait même de voir un tzaddik même physiquement, c'est déjà très important. Ça peut déjà amener Yirat Hashem, une crainte d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que chez le tzaddik, ce qui compte, c'est pas ce qu'il va dire. C'est le fait que le tzaddik est là en train de nous le dire. Alors, j'ai entendu un machal cette semaine, un machal qui peut expliquer ça. C'est comme on peut avoir la différence entre un dessinateur et un artiste. Ce que je veux dire par un dessinateur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait dessiner. Par exemple, tu lui dis, dessine-moi sur un écran d'ordinateur une tête, il va te dessiner une tête. Bon. Et d'un autre côté, tu as un artiste, d'accord, qui va peut-être, ça sera pas très joli qu'il va dessiner, mais c'est un artiste. Quelle est la différence entre le dessinateur et l'artiste? C'est que le dessinateur, il va peut-être être capable de retracer les traits de la personne, on va dire, ça va vraiment ressembler à la personne, mais le dessin qu'il va faire ne sera pas vivant. Il n'y aura pas de vie dans son dessin.
C'est pas qu'il n'y a pas d'inspiration,
c'est que lui, tu l'as dit faire un trait, on sait faire un trait sur l'ordinateur, je sais tracer un trait, on sait prendre une feuille calque et recopier, mais il n'y aura pas de vie dans son dessin. L'artiste, il sera peut-être pas joli son dessin, il te fera des traits par-ci, des traits par-là, d'accord? Du Picasso, si vous voulez, bon. Mais, d'accord, c'est quoi la force de l'artiste? C'est que l'artiste, il y a une vie dans son dessin.
Il va reproduire la vie.
Il va être capable de reproduire une certaine vie. Et plus l'artiste est bon, et plus il va être capable de faire vivre son dessin. De manière à ce que dès que je vois le dessin, je vis la situation. Je vis ce qui est en train de se passer. C'est exactement la différence qu'il y a entre nous quand on est en train d'étudier et entre quand on est en train de voir un tzaddik. Quand on écoute un shiur, par exemple, de quelqu'un normal, c'est comme un dessinateur. C'est-à-dire, il y a un dessin, tu sais dessiner, bon. Mais c'est pas forcément qu'on va vivre. Quand on regarde le tzaddik, on va pas voir le tzaddik pour écouter des divrei Torah. Bien qu'il peut nous dire des divrei Torah. C'est pas pour ça qu'on va voir le tzaddik. On va voir le tzaddik parce que le tzaddik, par rapport à l'exemple que j'ai donné, c'est comme un artiste. C'est-à-dire que le tzaddik, peu importe ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils sont en train de manger, qu'ils sont en train de dormir, qu'ils sont en train de boire, qu'ils sont en train d'étudier, le fait même de voir le tzaddik, c'est un artiste de sa vie. Voilà pourquoi on accorde une grande importance à voir les tzaddikim, vayu et necha ro'ot et morecha.
Et tout le temps? Tout le temps?
Non, bien sûr que si tu apprends du tzaddik, c'est encore mieux.
Non, mais je veux dire, ils sont
tu vis du tzaddik.
Ils sont tout le temps comme ça ou c'est des moments particuliers?
Non, ça c'est le tzaddik. Hein. Un tzaddik qui s'occupe du, qui a décidé de s'occuper du peuple, il a cette qualité.
Parce qu'on a un contre-exemple avec, peut-être qu'il faut pas parler maintenant.
Bon,
alors l'histoire de Baba Salé, les gens qui allaient le voir et qui le connaissaient depuis petit.
Et que?
Ils leur disaient, allez, venez pas me demander la bracha à moi parce que, vous allez pas me...
Peut-être lui qui avait une...
Vous allez pas me craindre comme quelqu'un qui me connaît pas.
Ouais.
Et que là, il va croire dans le tzaddik.
C'est vrai. Oui, peut-être. Bon, ça c'est autre chose. C'est un autre paramètre, ça.
Non, parce que ce que tu as l'air de dire, c'est
mais
que
y a...
le tzaddik, quoi qu'il arrive, tu le vois.
Ce que je suis en train de dire, c'est que le tzaddik, c'est un artiste. Maintenant, bien entendu, si tu comprends pas les dessins Picasso, ben, on a beau te dire que le dessin, il vit. Et...
C'est bien vrai, ça.
D'accord
ça,
D'accord, c'est ma première.
Tu veux du lait, du rouge ou du Lipton?
Il a démarré à l'ISP. Ah, du rouge, maintenant, ça y est. Bon. Donc maintenant qu'on a compris ça, on va essayer de développer c'est quoi le da'at. On a expliqué que comment on peut arriver à la Irat Hashem, comment on peut arriver à la crainte d'Akadosh Baruch Hu, comment on peut dire que la crainte d'Akadosh Baruch Hu c'est quelque chose de facile. On a dit que ça va être grâce au niveau de da'at, grâce au passe-partout qui est le niveau de da'at. Alors c'est quoi ce da'at là? C'est quoi ce da'at qui est le passe-partout, que grâce à lui, on peut arriver très facilement à la crainte d'Akadosh Baruch Hu? Alors on va reprendre dans les mots. Arikaradat.
Quel?
Tu vois? Arikaradat. Arikaradat. Quand on parle de dat, donc maintenant on va pas parler des tzadikim, parce que nous on n'est pas des tzadikim. On va parler du dat qu'on a chacun en nous. On a expliqué que ce dat là va être la clé pour pouvoir arriver très facilement à la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Enfin très facilement, je sais pas, mais en tout cas pour pouvoir arriver. C'est elle qui va nous ouvrir la porte pour arriver à la crainte d'Akadosh Baruch Hu.
C'est un tremplin.
Bon. Alors c'est quoi ce dat là? Il explique. Ar ikaradat, ena ayedia levada, sheyeduk doulat hashem, mipis sofrim ou mipis farim. Quand on parle de da'at, bien que da'at en français ça aurait pu se traduire par connaissance, c'est une mauvaise traduction. Pourquoi? Puisque qui dit connaissance, ça veut dire dit que je vais apprendre quelque chose de mipis sofrim, d'un scribe, ça veut dire de quelqu'un qui va m'enseigner, c'est une expression en hébreu, ou bien mipis farim, ou bien je vais étudier d'un livre. Mais c'est pas forcément que je vais intégrer l'idée. C'est pas sa da'at. Ça peut être rentré dans Chorma, dans Bina, mais c'est pas sa da'at. Da'at, il faut pas traduire da'at par connaissance, mais il faudrait traduire ça par attachement. Ou, comment on peut dire, intégrement, assimilation.
Non, intériorisation.
Intériorisation.
Je dirais prise de conscience.
Quoi?
Donc il dit comme ça. Et là, Yada et Trava. Bien sûr.
Ça, l'intériorisation d'un savoir. C'est ça le savoir.
Quand on dit que la Torah, quand elle nous dit que Adam a eu des relations avec sa femme, la Torah dit que Adam, on l'a étudié dans Perek Gimel, je ne sais plus trop quoi, on a dit que Adam, il y a Da et Trava. Adam a connu Chava, ben, il la connaissait déjà, hein. C'est quoi cette histoire? Non, on voit que Da'at en hébreu, ça veut dire avoir des relations, ça veut dire s'attacher avec quelqu'un. Intérioriser, s'attacher avec une idée.
Transmis la connaissance.
Non, la Yédia, c'est quand quelque chose t'appartient.
T'appartient.
Il y a un savoir qui était extérieur et après, tu te l'es approprié. Intégré, approprié. Alors là, ça s'appelle Yédia.
C'est comme une histoire qui s'est passée à l'université de Cambridge. Il y avait un des professeurs, une vraie histoire.
Il connaît dans tous les domaines.
Il y avait un professeur qui était prof en même temps de maths et d'éthique. Éthique, il enseignait l'éthique.
Ah, pas, l'éthique.
L'éthique.
La morale.
L'éthique. Qui en anglais s'appelle l'éthique. D'accord.
Non, comme ça, ça s'appelle aussi.
D'accord. Donc, il était professeur de maths.
Et d'éthique.
D'accord. Et d'éthique. Et de morale, si tu préfères.
Bon, ouais, c'est mieux, parce qu'il rigole pour rien.
Et une fois, on a appris qu'il a fait vraiment quelque chose qui n'allait pas vraiment avec ses cours d'éthique.
Quoi, par exemple?
Bon, pas besoin d'aller chercher très loin.
Non. Ah,
alors ses élèves, ils lui ont posé la question, Il nous dit, on ne comprend pas. Comment vous pouvez vous comporter, d'accord, d'une manière qui ne reflète pas votre étude. Il leur a répondu comme ça. Il leur a dit, je suis aussi prof de maths. Est-ce que parce que je suis un prof de maths, alors je suis un cercle ou je suis un carré? Ben non, de la même manière, j'enseigne l'éthique, mais entre ce que j'enseigne et ce que je suis, c'est pas la même chose. Et il le pensait sérieusement. C'est-à-dire que pour lui, l'éthique, c'est quelque chose qui s'enseigne, c'est quelque chose qui s'étudie, mais c'est pas pour autant que je dois changer mon comportement. C'est là où va jouer le da'at. C'est quoi le da'at? Da'at, c'est intérioriser l'idée qu'on apprend. Il faut pas que ce soit extérieur à la personne.
C'est la même avec Aristote.
Moi aussi.
Oui. Même histoire avec Aristote aussi. Ouais.
Aristote.
Oui. Aristote, il dit maintenant je suis pas Aristote.
Je suis pas dans les cours, je suis
pas Aristote. Oui, parce qu'Aristote, oui. Il a vraiment dit ça.
Aristote, on peut dire qu'il est, c'est déjà un autre niveau, parce qu'au moins pendant ses cours, il est Aristote. Et là, le professeur, il dit, moi juste j'enseigne un sujet. Il peut enseigner n'importe quoi. Moi, j'enseigne un sujet. Mais c'est pas pour autant que je suis un carré ou un cercle. C'est pas parce que j'enseigne les maths que... Bon. Donc, il dit comme ça. C'est quoi le da'at? Ou les amik datobik doulat hachem?
C'est un peu léger, je prends demain.
Oui, c'est d'approfondir. Bon.
Il était un peu léger, je prends demain.
Non, il était honnête. Et laïka, ou les amik datobik doulat hachem? Velitkoa marchafto bachem bechosek bometzalep. C'est quoi da'at? Da'at, ça veut dire approfondir sa pensée big doulat Hashem. On va développer ça aujourd'hui dans la grandeur de Dieu. Velitkoa marchafto bechosek bometzalep. De planter, de placer son esprit, de fixer son esprit. Bechosek bometzalep. Avec un courage, avec toute la force qu'on peut déployer avec son cœur et son esprit. Hte marchafto mekusheret bashem bekesher amit vechazak. Qu'est-ce que c'est da'at? C'est quand j'ai déjà compris un concept et je vais me casser les pieds pour essayer d'intérioriser ce concept, d'intérioriser dans mon cerveau et d'intérioriser dans mes sentiments, que ça fasse partie de moi. Kemo shehi mekusheret bedavar gashmi sheroe beine basar. De la même manière qu'on est attaché avec quelque chose qu'on voit. Ça veut dire comme ça. Qu'est-ce qui fait, le Rav Sanzat s'explique ça de la manière suivante. D'accord? Il y a même un proverbe en yiddish qui dit que des fois, quand des gens posent une question, on le dit à cacher à famaïse. C'est un proverbe en yiddish qui dit, tu poses une question sur une histoire qui s'est passée. Ça veut dire quoi? Akashia famaïse.
D'accord?
Une question sur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui s'est passé, on est tous témoins de quelque chose qui s'est passé. Et après, tu as quelqu'un qui vient, d'accord, il va venir, il va commencer à te casser les pieds, il va dire, oui, mais qui te dit que ça s'est passé? Peut-être que c'était pas ci, peut-être que c'était pas ça.
Fallait faire ci.
Mais écoute-moi bien. Ça s'est passé. Maintenant, que tu l'as compris ou que tu l'as pas compris, que je le comprenne ou je le comprenne pas, de toutes les façons, ça s'est passé.
Ouais.
C'est une réalité, ça s'est passé. D'accord? Le problème qu'on a avec la Torah, avec tout ce qui est spirituel, c'est qu'on ne sent pas comment ça s'est passé. C'est pour ça que dès qu'il y a des questions, ça nous déstabilise. Tu comprends? Par exemple, moi, je sors dehors, je vois une voiture rouler. Hein, tu vas venir me poser des questions, tu vas me dire, impossible que tu aies vu une voiture rouler. Tu me poses des questions et tu me bloques. Je l'écoute. Tu peux me bloquer comme tu veux, mais moi, j'ai vu une voiture rouler. C'est akashie afamaise. C'est une question sur une histoire. Voilà, comme ça, on apprend quelque chose en yiddish. Explique le Rav Sanzat.
Quel mot yiddish là-dedans?
Bon, a. D'accord? C'est un proverbe en yiddish.
C'est pour ça que j'ai compris. Après,
c'est pas de l'allemand, c'est de l'yiddish. Bon, Afa, c'est sur une histoire.
Oui. en allemand,
en arabe, on aurait dit ça comment? C'est quoi le... Oui.
Par rapport au cours de samedi.
Date, oui.
On part à quelle étape? C'est
qu'on a vu, c'est intériorisation, le troisième.
Le
troisième. Celui que le troisième. Pas celui dans lequel on a, pas celui dans lequel on digère. Ça c'est bina. Le troisième, quand les ékénimes, ça veut dire le moment dans lequel on va kana chorma, quand on va vraiment acquérir la chorma, c'est-à-dire que là vraiment on va intérioriser la chose. C'est la troisième, c'est ékénimes, exactement. Mm-hmm. Bon. Donc, c'est quoi da'at? D'accord?
Ça, c'est je veux dire,
c'est quoi da'at? Da'at, ça veut dire s'attacher avec la chose, de manière à ce que la chose soit réelle. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que tellement le judaïsme va être quelque chose de réel pour moi, que si maintenant, on va venir me poser une question, on va me dire, oui, mais qui te dit que ça s'est passé comme ça? Peut-être que les scientifiques, ils ont posé des questions. Moi, je vais dire, écoute, ça s'est passé comme ça. Maintenant, même si tu as des bonnes questions, ça s'est passé comme ça. On va essayer de répondre à tes questions pour se faire plaisir, et parce qu'on est curieux, on essaie de répondre à ta question. Mais ça ne changera pas grand-chose parce que ça s'est passé comme ça. Ça, c'est d'arrêt. C'est quoi da'at? C'est que je suis attaché avec la chose, que j'ai intériorisé la chose, que la chose fait partie de ma vie, de la même manière qu'une chose physique fait partie de ma vie. Que tu peux pas venir me la contredire, c'est du réel. C'est ça, c'est da'at. Intérioriser la chose de manière à ce que ça fasse partie de ma vie, comme si c'est quelque chose de physique que j'aurais vu.
Mais ça peut être basé sur un mensonge, ça aussi.
Oui,
fais attention.
Bien sûr. C'est 100%.
On parle que au niveau judaïque.
C'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que la semaine dernière, je sais pas si vous rappelez, j'ai fini le cours en disant que da'at, c'est quand on va se shooter. Vous vous rappelez?
Voilà.
Parce que c'est, t'as raison, c'est valable, ça aurait pu être valable aussi si c'était du mytho. Hein,
ou ça peut s'appeler par moment l'autosuggestion.
Ouais.
L'autosuggestion, voilà.
T'as raison à 100%. Mais ça, c'est date.
D'accord.
On se raconte, ça. On se raconte, et voilà, on est sûr, c'est ce qu'on raconte. Mais...
Donc il dit comme ça, hein, d'accord. Il dit, donc dans les mots, Kemo shei mekusheret bedavar gashmi sheroe beine basarsh, ou ma mikbo machashafto. De la même manière que quelque chose de physique. Quand, ça veut dire que mon esprit a automatiquement réfléchi et j'y crois, de la même manière, le spirituel, on va expliquer c'est quoi le da'at, c'est s'attacher avec le spirituel de manière à ce que ça soit quelque chose de réel pour moi. Que ce soit quelque chose que j'ai intériorisé, que ce soit quelque chose de réel et de tangible. Là, à ce moment-là, vous avez, là on comprend tout de suite, on commence à comprendre pourquoi c'est le passe-partout. Parce que c'est ça la clé du problème. Oui. La clé du problème, c'est que le spirituel, c'est quelque chose qui est trop loin de nous. Donc on peut nous déstabiliser très rapidement. Le Yetzara, il nous déstabilise très vite, parce qu'il dit, tu connais pas le spirituel, moi je vais te montrer des choses qui tiennent la route. Quelle est la clé de da'at? La clé de da'at, c'est de rendre le spirituel réel. De rendre le spirituel tangible. De se shooter, si vous voulez dire. Bon.
Donc, quand tu fais un cours de Torah, tu kiffes, par exemple, un cours de Torah.
Oui.
Tu fais ça. Tu rends matériel quelque chose de spirituel.
Comme j'ai expliqué la semaine dernière, j'ai dit, on voit très fort la qualité de da'at quand on étudie la Gemara. On voit ça de manière très très forte. Quand on étudie la Gemara, bon, au début, il faut se mettre dans le bain, mais après, une fois qu'on est dans le bain,
déjà,
on est en plein dedans. On est dedans. On nage. D'accord? On est en plein dans la Gemara. C'est-à-dire qu'après, tu sors du cours après, pendant quelques minutes, t'es encore dans le... T'es encore là-bas, t'es encore en Babylonie en train de discuter avec Rava, Abaye, avec Tosfot, t'es là-bas. D'accord ? Enfin, Tosfot, c'est enfant.
Non, Tosfot, c'est vraiment pour les bêtes. Mmh.
Kanoda, chez Da'at ou Itkashrut.
On voyage rapidement, hein, tac-tac.
Oui. Comment c'est que...
On voyage en quelques centimètres.
Quelques centimètres.
Magnifique.
Ah, entre la France et la France, il y a la Babylonie.
D'accord.
Kanoda, c'est da'at ou la chanit kashrut. Comme c'est connu, que da'at, c'est quoi da'at? C'est la chanit kashrut, c'est-à-dire s'attacher avec la chose. Ouais. Comme que mot, comme c'est écrit, le façon qu'on a dit tout à l'heure. Ve'adam yada. Que l'homme a connu Chava. Ça veut dire quoi connaître? C'est pas simplement connaître qu'il la connaissait pas. Il la connaissait, c'est sa femme. C'est quoi qu'il a connu, c'est-à-dire qu'il s'est attaché avec elle. Ça, c'est da'at. Ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu va nous donner, et ça, c'est la clé du succès. Si on veut réussir, il faut s'attacher avec la chose, il faut intérioriser la chose. Tant qu'on n'a pas intériorisé, ça ne marchera pas. Ça sera quelque chose d'extérieur. Ve koarze ou midazo, les kasher d'atobachem, et cette force-là, donc on commence à comprendre pourquoi c'est la clé du succès, yesh bechol nefesh mbet Israël. Bien qu'on nous a dit que les chefs de la génération, ils ont en eux une étincelle de Moshe Rabbeinu, mais il faut savoir que cette force-là, peut-être qu'on n'a pas l'étincelle, on n'a pas du brut comme les chachamim de la génération, mais on a cette force-là de da'at qu'on a hérité, enfin qu'on a pris, mi nishmat Moshe Rabbeinu ala vachalom de la neshama de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire, ça dépend pas de notre travail, on est comme ça. On est comme ça. Il donne un exemple ici, le Rav Tenzas, dit qu'il a connu, et moi aussi j'ai connu quelqu'un comme ça aussi, connu quelqu'un de fou, quelqu'un de pas normal, mais qui était capable, tu lui demandes n'importe quelle date, tu lui donnes n'importe quelle date, en français, il te dit quelle date c'était en hébreu. Moi, j'ai vu quelqu'un comme ça à Lille. J'étais une fois à Lille, on était parti à Hanouka pour faire Miftahim, et donc pour allumer les bougies de Hanouka dans les maisons, et chez le Rav Dahan, exactement, chez le Rav Eli Dahan. Et donc après, on est venu à la choule faire un vide. Et il nous a présenté quelqu'un. Je ne sais pas s'il est encore de ce monde, il était déjà assez âgé. J'ai oublié son nom.
Pas dire.
Quelqu'un de bon, quelqu'un qui était déjà assez âgé.
Il était fou.
Non, pas fou, mais bon, pas très normal, ouais, d'accord.
Génial, tu vois.
Il nous a présenté quelqu'un, il a dit, écoutez, voilà, je vais vous dire, lui, il a passé la Shoah, il est pas très normal.
Seule chose.
Et vraiment, c'est vrai, c'est-à-dire, tu lui parles, il te raconte des histoires, vraiment, tu sens qu'il est à côté de la plaque. Ah
ouais.
Mais il nous a dit quelque chose, il demande lui n'importe quelle date, il va te sortir tout de suite la date, tu lui donnes la date en français, tu lui donnes la date en hébreu. Maintenant, je sais pas si vous avez déjà essayé de faire le calcul. Tout de suite, ouais, n'importe quelle année. Oui, n'importe quelle année, on lui a demandé des 1900, 1800... Il a une application, mais attention.
Sur une année encore, sur plusieurs années.
J'ai déjà étudié une application en programmation qui fait ça. Je peux vous dire qu'il faut faire plusieurs calculs. Ça se fait pas comme ça. Mais c'est comme ça, il y a des gens que, voilà, il est peut-être fou, mais il est très intelligent. Il n'est pas normal.
Rayman.
Génie.
Oui, c'est ça, ouais.
Un génie. D'accord. Ou bien, il donne un autre exemple, Rav Stenzel, il dit, on voit par exemple que, on sait aujourd'hui que les oiseaux...
Excuse-moi, pourquoi il donne cet exemple? Alors
justement, il donne cet exemple, justement, je vais expliquer tout de suite.
Tout le monde, moi, je sais pas pourquoi
pour expliquer qu'il y a des choses qui sont innées en nous, qu'on a en soi, bien qu'on n'est pas forcément intelligent. Mais avec le deuxième exemple, on va encore mieux comprendre.
Oui.
Il dit que, on sait par exemple aujourd'hui que par quoi les oiseaux se dirigent. Les oiseaux se dirigent, d'accord, selon les étoiles. C'est-à-dire que selon la direction des étoiles, les oiseaux se dirigent. On sait aujourd'hui que, d'accord, une des théories les plus répandues, c'est que comment les oiseaux font pour se diriger? Ils dirigent comme ça par le vent.
Ils ont une boussole.
D'accord? Oui. GPS. Comment ils se dirigent? Ils se dirigent avec les étoiles. Maintenant, nous, on sait que calculer avec les étoiles, d'accord, se diriger par les étoiles, c'est quelque chose de très compliqué. Non, il faut s'y connaître. C'est le point que la Gemara, par exemple, quand elle nous parle de Shmuel, on dit que Shmuel était capable de se diriger par les étoiles. Elle nous dit que Shmuel c'était une qualité qu'il avait plus que les autres chats. C'est-à-dire que c'est quelque chose de compliqué. Il faut connaître les étoiles. Pourtant, un simple oiseau qui comprend rien du tout, un chmar, il est capable de le faire. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on voit ici? Et des fois, il s'arrête. Voilà, parce que les étoiles en haut, il s'est arrêté. Il dit, ah, mon GPS, il marche plus. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut passer? Qu'est-ce qu'il veut expliquer par là? Qu'il y a des choses qu'on a innées en nous, qu'on n'a pas travaillé pour ça. L'oiseau, il n'a pas travaillé, il est né comme ça. Depuis qu'il est né, il sait se guider par les étoiles. C'est comme ça, c'est un don qu'il a. De la même manière, nous aussi, quand on entend des concepts comme Da'at, tu me dis, intérioriser la crainte de Dieu, intérioriser le spirituel, je dis, mais attends, peut-être pour Moshe Rabbeinu, mais on est loin, loin de ça, qu'est-ce que tu me racontes des histoires? C'est pour ça qu'Admor HaZaken, il dit, que tu le crois ou que tu ne le crois pas, tu as ce cadeau, c'est un cadeau que tu as en toi. On l'a de Moshe Rabbeinu. Alors on peut être boosté des fois par des tzadikim. C'est-à-dire qu'eux, ils ont l'étincelle de Moshe Rabbeinu. Mais on a ce cadeau en nous. Donc, comme on a donné l'exemple avec les oiseaux. Rak, où est le problème? Si on a ce cadeau en nous, alors pourquoi on a du mal? Ok, tu me dis, j'ai un cadeau en moi, j'ai le passe-partout. Alors pourquoi j'ai du mal à le développer?
Oui.
Ben, c'est ça le problème.
Oui.
Rak. Mais achar shi klapsha nefesh begouf. Puisque l'âme s'est habillée dans le corps. Pardon. Tzrichal yegi araba vasuma. L'âme, on a besoin d'une grande fatigue. D'accord? D'une fatigue extraordinaire. Il faut se fatiguer. Kfula ou kupelet. D'accord? Donc on a besoin d'une grande fatigue. On va expliquer tout de suite qu'est-ce que c'est comme, quand on parle de fatigue, quand on parle d'effort, de quel effort on est en train de parler ici. D'accord? C'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire qu'à la base, quand la personne est née dans ce monde, quand on est, c'est facile pour un petit enfant de sentir le spirituel. Beaucoup plus que pour un adulte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore été, comment on dit quand on est influencé, pardon.
Il n'a pas été pollué.
Ouais. Il n'a pas été pollué par le monde. Nous, après, avec le temps, on commence à travailler, métro, boulot, dodo, et c'est fini. Après, pour nous, d'accord, nos valeurs ne sont plus des valeurs spirituelles, mais sont des valeurs matérielles. Alors ici, on a deux problèmes qu'on a. Écoutez bien comment il va développer. D'accord, c'est Razak, c'est grand classe. Ici, on a deux problèmes. La Neshama qui est descendue en bas, on a deux problèmes. C'est quoi les deux problèmes qu'on a? Premièrement, c'est le fait, comme tu as dit, que la Neshama est polluée par le corps. Ça veut dire que, bon, ben, dans les faits, même si la Neshama est parfaite, mais elle est polluée par le corps, ça c'est premièrement. Et deuxième problème qu'on a ici, c'est le fait que la Neshama est descendue. Et pareil, le Rav Stenzel encore, il donne beaucoup d'exemples dans ces chapitres-là, il donne un exemple très simple. Il dit, c'est comme on a le problème avec des gens qui vont en prison, mais qui vont en prison pas pour un an, pas pour deux ans, mais pour des dizaines d'années. Le problème qu'ils ont, c'est quoi? C'est que Dieu préserve. C'est quoi le problème qu'ils ont? C'est que ces gens-là,
ils
perdent la raison. Ils oublient ce que c'est, le Rav Stenzel, il dit que, bon, je sais pas, il témoigne comme ça, hein, il témoigne qu'il a rencontré un prisonnier qui a oublié ce que c'était une femme. Tellement il était des années en prison. Bon, c'est un exemple qu'il amène, mais bon. Ça veut dire quoi? Le problème numéro un qu'on a chez les gens qui vont comme ça en prison, c'est quoi? C'est que, puisqu'ils sont dans un monde, ils sont enfermés dans un endroit, ils sont complètement déconnectés, petit à petit, le cerveau, il oublie. On oublie comment c'est dans le monde autour. Et donc, on commence à s'habituer, pour nous, tout le seul monde qui existe, c'est le petit ghetto, la prison dans laquelle on vit, et c'est tout ce qu'on a. Et les personnes qui ont réussi à sortir de prison, et à rester indemne, à rester intact. C'est des gens que tous y témoignent que plusieurs fois par jour, ils sont en train de se rappeler comment c'est dehors. comment, ils se rappellent comment c'est dehors, comment les gendarmes, qu'est-ce que les gens normaux ils font maintenant. Ils se rappellent constamment comment, qu'est-ce que quelqu'un de normal doit faire maintenant, qu'est-ce qu'on fait, comment c'était à l'époque. Parce que le cerveau il oublie tout ça. Et comment ils ont fait pour réussir, les gens qui sont ressortis normaux, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ça malheureusement c'est des histoires qu'on a entendues aussi dans les camps. D'accord, que les gens qui sont sortis Baruch HaShem bien des camps, il y a beaucoup de témoignages, des gens qui racontent que très souvent ils se rappelaient que même si on nous traite ici comme des animaux, mais on n'est pas des animaux. Ils se rappelaient de ça constamment. C'est le même problème qu'on a quand la Neshama descend dans le corps ici-bas. La Neshama est en tôle. La Neshama est en prison. On a deux problèmes. Premier problème, c'est quoi? C'est que on a les autres prisonniers qui sont autour de moi, qui vont me dire, mais arrête avec tes histoires du passé, maintenant on est ici, c'est ici la vraie vie. Donc on est pollué par d'autres prisonniers, ça c'est le premier problème. Et deuxième problème, c'est que moi-même je suis en prison et qu'avec le temps, je vais oublier. Deux problèmes, vous suivez? Premier problème, c'est les autres tolards qui sont autour de moi. Et deuxième problème, c'est moi-même, avec le temps, d'accord? Comme j'ai quitté... Oui. C'est les tauliers qu'on dit ?
Non, ah, c'est pas comprendre les tauliers. C'est machouacher. C'est machmaout acheret. Même racine, mais pas la même machmaout.
Deux problèmes. Premier problème, c'est de ne pas écouter ce que les autres tolars sont en train de nous raconter. Deuxième problème, c'est que moi aussi, je ne dois pas oublier comment c'est dans le monde à l'extérieur. C'est exactement la même chose qu'elle va faire la Neshama ici, quand la Neshama est en bas. Dans les mots de Morazakhen, on va appeler ça Yegiat Nefesh et Yegiat Bassar. La fatigue de l'âme et la fatigue du corps. C'est quoi la fatigue du corps? La fatigue du corps, ça veut dire essayer d'enlever le côté matériel qu'on a en nous. De se rappeler que la vraie vie, c'est pas métro, boulot, dodo. C'est pas ça la vraie vie. Ça veut dire d'oublier les tolards qui est autour de moi. Ça veut dire que c'est pas ça la vraie vie.
Et pourtant.
Ça, il va expliquer comment on fait. Oublier ce qu'il y a autour de moi. Ça, c'est premièrement. Ça va être Yigat Bassar. Ça va être la fatigue du corps. D'accord. Et le deuxième, c'est quoi? Le deuxième, ça va être Yigat Nefesh. Alors, même une fois que tu as écarté tous les éléments qui polluent, maintenant, il faut que la Neshama va devoir se fatiguer pour ne pas oublier comment c'était en haut. Dans les mots. Il va développer ça. Donc ça, je vous ai dit ça juste pour expliquer, parce que la Noazakan va expliquer ça en plusieurs lignes.
Parce que les Marassés, on nous demande, tu nous demandes, Rajas qui rapporte par du Hadmour, de se rappeler qu'on était en haut.
Oui.
Or, qu'on était en haut, on nous a fait oublier.
Bien sûr. Pas seulement.
C'est pas, on s'en rappelle, et c'est la vie qui nous fait oublier. C'est une mitzvah de base.
Quand je dis se rappeler...
Un enfant, il peut se rappeler ce qu'il était là-haut, il n'a pas de mémoire, je ne sais pas quoi. Et quand on devient adulte, c'est que même s'imaginer machin, en vérité, c'est pas se rappeler.
Non. C'est se remettre dans un concept spirituel.
C'est réveiller un souvenir. Oui. C'est pas se rappeler.
Non, mais c'est même pas... Parce que je me rappellerai pas de ce qui s'est passé quand j'étais en haut.
Réveiller des sentiments spirituels qui sont toujours présents en nous.
Réveiller un sens spirituel qu'on a en nous.
Mais c'est pas sans souvenir.
Non.
C'est le réveiller.
Ah, j'ai donné l'exemple de la prison. Non. Donc il dit comme ça. Comme explique l'Admor Hazaken, qu'en vérité, en nous, on a la capacité d'intérioriser n'importe quel concept. De qui on a hérité ça? On a hérité ça de Moshe Rabbeinu. D'accord? Alors pourquoi? Alors dans les faits, pourquoi on voit que c'est difficile? Là, explique l'Admor Hazaken. Il dit c'est difficile, je vais t'expliquer pourquoi. Il y a deux raisons pourquoi c'est difficile. Il y a deux choses à faire. Deux efforts. On doit faire des efforts dans deux plans. Premièrement, Ahat Yegiat Bassar. La première fatigue, c'est quoi? Yegiat Bassar, c'est la fatigue du corps, la fatigue de l'âme. Ça veut dire que dans mon exemple de tout à l'heure, ça veut dire ne pas faire attention au tolard qui est autour de moi. Bon, il explique. Les Vatesh et Agouf ou les Achnio. De briser le corps, ou les Achnio, et de le soumettre. Alors attention, quand je parle de briser le corps, je ne parle pas de faire souffrir le corps. Attention, c'est vrai que j'explique bien. Quand je parle de briser le corps, je ne parle pas de faire souffrir le corps. Pourquoi? Parce que on a un principe qui dit, d'accord, au nom du Maguide de Meserich, que un petit trou dans le corps est un grand trou dans la Neshama. Le corps et la Neshama et le corps sont liés. Donc on ne demande pas ici à faire souffrir la Neshama. Rav Tenzel, encore une fois, il amène un exemple ici, un très bon exemple. D'accord? Et là, je ne sais pas pourquoi c'est dans ce périclet, il y a beaucoup d'exemples. Il amène un exemple. Il dit, quand quelqu'un il porte un vêtement qui est sale, qui est sali avec de la poussière. Bon, alors si on peut enlever le vêtement, on enlève le vêtement et on va le dépoussiérer. Mais si le vêtement il reste attaché sur l'homme, quand tu vas frapper le vêtement, tu vas frapper l'homme aussi. D'accord ? Donc il explique de la même manière, c'est pour ça que dans la chassidoute, de manière générale, on n'encourage pas le fait de faire souffrir le corps. Parce que pour nous, on dit que si tu fais souffrir le corps, puisque le corps n'est plus une entité séparée de la Neshama, donc quand tu feras souffrir le corps, automatiquement tu feras le corps, tu vas faire souffrir la Neshama, Bon. Alors de quoi on parle ici? Les Vatesh et Taguf ou les Arkniou. Là, on va faire un petit retour à ce qu'on a expliqué au chapitre 29. Je vais lire dans les mots. C'était un Zohar. Et après, je vais expliquer. Que Moshe Nidbaer Leel Beshem Azohar, comme on a expliqué plus haut, chapitre 29, au nom du Zohar. De Goufa de Losalik Be de Neora de Nishmata Mevachinle. Alors, ça fait quelques temps qu'on a étudié ça. Ça fait un an et quatre mois, si je ne me trompe pas.
Je me cherche, hein. C'est grave, tout ça, hein.
Je ne sais pas, je me rappelle plus, j'ai pas la date exacte. Là.
Quelle date?
Moi je dis 16 mois.
16 mois. Ça fait quoi, de mois à mois, les 16 mois, ça fait quoi?
C'est vrai, Kraftet, je sais pas. Moi je dis 16 mois.
Kraftet, tu vois le test. Ah, dis-moi Kraftet, c'est pas mal déjà. Février. Février
2008.
Mars. Ouais, je dis mars. Ouais, mars.
Kraftet, tu m'as dit.
Kraftet.
C'est fort. Kraftet, il est fort.
Alors,
Raphaël, qu'il a commencé le 3 mars.
Ah.
3 mars, 17 mars. Et 24 mars.
Bon.
C'est bon, hein.
C'est bon. Ce que dit comme ça.
C'est l'application. C'est l'application, ça se décale.
Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Des goufa de lo salik ben neora de nishmata mevachinle. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On a expliqué que goufa de lo salik ben neora de nishmata. Dans le Zohar, on dit là-bas, on dit de la même manière que quand on a un gros morceau de bois et qu'on n'arrive pas, on veut faire du feu avec ça, hein, quand on veut se chauffer, mais le feu ne prend pas. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Il faut casser le morceau de bois, et c'est là que le feu va prendre. Explique le Zohar, de la même manière. Goufa de lo salik be nora de nishmata mevachine. Un corps dans lequel la lumière de la neshama ne rentre pas, mais vachine, il faut le casser. Il avait donné des applications pratiques dans le chapitre 29. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, il faut parler à son Yetzara, il faut un peu crier à son Yetzara. Il faut dire jusqu'à quand, comme ça il avait dit. Il a dit, Admata et Tastir, jusqu'à quand tu vas te cacher devant la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Attention, je ne parle pas de se faire souffrir. Parce qu'il y avait des gens à l'époque qui se faisaient souffrir. Par exemple, ils s'asseyaient sur une fourmilière, d'accord, pour se faire souffrir, comme ça le corps il va souffrir. C'est pas ça ce qu'on demande. On n'est pas en train de faire souffrir le corps. On est en train de casser le corps. Ce que j'entends par briser le corps, j'entends enlever le côté matériel. Oublier le côté matériel. C'est ce qu'on appelle le hit kafia.
Vous
rappelez le hit kafia?
Bien sûr, Galia et kafia.
Je vais au restaurant, j'ai envie de 3 boules de glace, je ne vais pas prendre 3, j'en prends 2. Ou je ne vais pas prendre du tout de glace. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais gagner? C'est pas assourd de manger de la glace.
Non, mais ça, c'est assourd, je me prive là, c'est assourd.
C'est pas assourd.
Un peu moins, mais pas, je me prive.
C'est pas assourd de manger de la glace.
Je dis à tout le monde que j'en voulais 4, je dis, je prends que 3, mais je voulais que 3. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, c'est assez personnel, j'ai envie de 3 boules, je vais prendre 2 boules. Je me retiens, ça s'appelle Itkafia. C'est quoi Itkafia? À quoi ça sert? Bonne question.
C'est avoir des boules.
Ça sert à casser le côté matériel qu'on a en nous. À montrer que c'est pas ça les vraies valeurs. Alors bien entendu, on va continuer à manger. On t'a pas dit de pas manger ta glace. Mange ta glace. D'accord? Mange ta glace.
Les Tunisiens, ils sont italiens, eux. Hein. Il y a marqué 3 boules, ils disent, je prends 4 boules, mais enfin, parce que je me la kiffe aujourd'hui.
Les enceintes. Les Tunisiens, ils vont récupérer les étincelles de Gdoucha qui est dans le...
Ah, les Tunisiens, ils ont un...
Je crois que ça va
être ça. Certainement, Julien. Hein. Donc, on a deux fatigues ici. Deux efforts. D'accord.
Pas dans cette catégorie. Parle-nous vite de Galia.
On a deux efforts. Premier effort, c'est quoi? C'est Yegiat Bassar. C'est de se fatiguer.
La chair.
D'accord. De se fatiguer la chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on a un kiff matériel, se fatiguer et d'essayer de s'entraîner à ce que le but n'est pas le kiff matériel. Très difficile. D'accord.
Je dois pas me fatiguer souvent.
C'est pas facile. D'accord. C'est même très difficile. Mais le Zohar le dit. On dit que c'est quelque chose qu'on apprend dans Metivta d'Erakia, qu'on apprend dans la Yeshiva du Gan Eden. On apprend ce principe-là, que de la même manière que ce qui est valable pour un morceau de bois, c'est valable pour une Neshama. Tu dis, écoute, tu sens que tu n'arrives pas à... Tu sens que ça prend pas, que le spirituel ça prend pas. Des fois, on sent que ça prend pas le spirituel. Il faut casser un peu. Il faut lâcher du lest. Il faut casser. D'accord?
Il faut libérer l'oxygène,
Razak. On a des super définitions. On a des définitions.
Non, mais quand même.
D'accord.
C'est pour ça qu'il a...
Vaïnou, ça veut dire.
C'est pour ça qu'il a un E71, parce qu'en fait, il voulait le iPhone.
Vaïnou, ça veut dire.
Il a cassé, il a pris le...
A l'idée, il aurait chouva mais omek alev kemo chenit vaersham. Ça veut dire quoi? D'accord. Donc tout d'abord, on a ce qu'on a expliqué, le concept de Itkafia. Mais à part ça, dit la Demorazaken, ça veut dire, ça va être par Irour et Tshuva, mais au Mekalev, dans le chapitre 29, on a expliqué, ça va être par des pensées de Teshuva. Comment on casse son matériel? D'accord? Qu'est-ce qui fait qu'on fait des Averot? C'est à cause de notre côté matériel. Et des fois, il faut parler un peu de Sarara, il faut lui rentrer dedans. Il faut dire, ça suffit maintenant, il y en a marre. C'est moi le patron ici. Il avait comme ça, il avait dans le chapitre 29, enfin pas dans ces mots-là, mais... Vaïnou à l'idée Irour et Tshuva, mais au Mekalev. Donc premier point, on a un premier problème qu'on a ici, comme je dis, c'est que comme la Neshama est descendue dans un corps, donc il faut d'abord enlever l'obstacle du corps. Donc il faut petit à petit s'habituer, ça on le voit chez les grands tzadikim, chez les grands chassidim, chez les gens qui se travaillent, on voit que plus on se travaille, et plus on voit qu'on a plus de facilité à ressentir le spirituel, on récupère le sens spirituel. D'accord ? Comme il dit le Zohar, « Tukfa de Goufa, Khulcha de Nishmata ». D'accord ? Il dit que quand le corps est très fort, quand le corps est très fort, c'est quelqu'un qui a la tête toute la journée dans son corps, bah automatiquement, son échama est faible.
Il n'y a pas de problème. J'ai toujours fait des
tout que fait des goufa, roule ça des nishmata. On va pas parler. Oui.
Non. Non, tu veux dire déjà en tant que juif, le fait qu'on puisse pas manger n'importe où, qu'on puisse pas manger n'importe comment, n'importe quand, c'est bien.
Déjà bien
c'est bien qu'un fiat du goufa. Déjà, on est limité. On est en déplacement, lui le pauvre, il en a doute. Et j'ai connu ça. Il en a doute quand il est en déplacement. Il peut pas manger. C'est dur. Tout le monde est en train de manger, il a un morceau de gâteau, un peu de thon, je sais pas ce qu'il doit faire, à savoir. Prends un peu de dame croûte, c'est très bon.
Selon le...
Non, je veux dire, c'est un nid-kafia.
Selon la... On avait expliqué dans le chapitre 29. On avait
nous, on connaît nid-kafif, nous, on n'est pas de café.
On avait expliqué dans le chapitre 29 que, selon le Ramban, selon Nachmanid, quand c'est écrit Kedoshim Tiyu, c'est écrit que vous devez être Kadosh, selon Nachmanid, Kadesh Atmecha Bemutar Lach. C'est une mitzvah de la Torah, mitzvah positive de la Torah, c'est même pas un conseil. C'est une mitzvah positive de la Torah, écoutez bien, que Kadesh Atmecha Bemutar Lach, qu'on a l'obligation de se sanctifier dans ce qui m'est permis. Alors bien entendu, c'est une mitzvah qui n'est pas définie, puisque ça va être chacun selon son effort. D'accord ? Et c'est surtout, et ça s'arrête jamais. Parce que dès que quelque chose est devenu facile, et ben ça, je peux plus dire que je me suis sanctifié, c'est devenu facile maintenant. Ça, c'est ce que vous avez expliqué dans le chapitre 29. Que c'est quoi le concept de cette mitzvah Kadesh Asmecha Bemotarlar, comme le Sefer Achinour explique, si je ne me trompe pas. D'accord ? Ça veut dire quoi qu'il faut se sanctifier dans ce qui était permis ? Ça veut dire briser le corps pour pouvoir permettre à la Neshama de s'éveiller. Donc, en d'autres termes, pour reprendre ce qu'il dit le Morazakan ici, éveiller le sens spirituel. Donc ça, c'est la première chose. Pour reprendre l'exemple de la prison, première chose qu'il faut faire, c'est ne pas faire attention au décor. Il y a des prisonniers, il y a un décor qui fait qu'on fait tout pour que tu te sentes en prison.
Faisant.
D'accord ? C'est quoi la première chose ? Ne pas faire attention au décor. Faire comme si que le décor n'est pas là. Bon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire bien que je suis... Voilà, chuté, hein, je vous l'ai prévenu.
Bon, faut plus, mais...
Ne pas faire attention au décor. Ça, c'est Hirur et Tshuva. De dire bien que pour moi, le spirituel, c'est une valeur qui n'est pas tangible, qui n'est pas réelle, je vais essayer de m'efforcer à réfléchir au spirituel jusqu'à ce que ça me sorte du nez. Jusqu'à ce que je sente que je le vois devant moi. D'accord ? Là, je pourrais dire que j'aurais quitté l'obstacle du corps.
Bon. En même temps, on demande de faire des mises avec du matériel.
Bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais le matériel, d'un autre côté, forme un obstacle au spirituel.
Oui, mais en même temps, on nous demande de faire des mises avec du matériel.
Pas de problème. On t'a pas demandé de kiffer dans le matériel.
Non.
D'élever le matériel.
Oui, c'est pas de problème, ça. Au contraire.
Quand tu te travailles à ce point-là, ce qui vient de dire, le problème, c'est que tu enlèves le désir. Tu enlèves le plaisir, tu enlèves le désir.
Ce qui veut dire, Yaakov, enfin, si j'ai bien compris, c'est que contrairement à d'autres religions dans lesquelles directement on se base sur le spirituel, d'accord ? Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, directement, on dit qu'il n'y a pas de matériel. Dans le judaïsme, on a la spécificité, c'est qu'on cherche à spiritualiser la matière. Donc on a un rapport avec la matière. Donc c'est plus difficile. D'accord.
C'est très difficile.
C'est plus difficile.
Même antagoniste, pardon.
D'accord. C'est antagoniste, exactement. C'est ça ce que je voulais dire.
Oui.
Ouais. Bon, c'est vrai. Certes, c'est ça le travail. C'est ça, dit Rabbi Tartoni.
Ah, mais c'est ça, hein.
D'accord. C'est facile.
Pas une construction stam de Bouygues, hein. C'est dit Rabbi Tartoni.
C'est pour ça que nous, en vérité, on se shoote pas, parce que c'est facile de se shooter, de dire je suis en haut et je vois pas ce qui se passe.
Ou en haut ou en bas, c'est facile. C'est entre les deux que c'est un problème.
Tu restes en bas et tu dis je suis en haut. C'est ça, date. Date, c'est intérioriser le concept spirituel tout en restant en bas. Comment je peux réussir? Irur et Tshuva, mais Omek Alev. C'est quand j'ai des pensées de Tshuva, mais Omek Alev du profond du cœur. Ça veut dire quoi du profond du cœur? Ça veut dire pas comme si que je réfléchis au Averot de quelqu'un d'autre. Je dis, c'est pas bien de faire cet Avera. Bon, j'aurais pu penser ça sur quelqu'un d'autre aussi. C'est pas bien de faire cet Avera. Non. Il faut que ça me concerne, que c'est pas bien que j'ai fait cet Avera. Vous savez, comme on explique beaucoup Kuntra Soumayen dernièrement, dans les cours de Kuntra Soumayen le Shabbat matin, on dit que le Tzahara est très fort. Quand on fait une mitzvah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah, j'ai fait une mitzvah. Mais quand on fait une avera, qu'est-ce que je dis? Je dis, c'est de la faute de mon Yetzer Hara. Vous avez remarqué la différence? Quand je fais une mitzvah, j'ai fait une mitzvah. quand je fais une avéra, je dis c'est de la faute de mon yetzara. C'est-à-dire ça, c'est fini, c'est plus mon problème, c'est déjà le problème du yetzara. D'accord ? C'est pas de ma faute.
Je déculpabilise.
Et ça, c'est me omek alev. Ir ure tshuva me omek alev. Quand on dit des pensées de tshuva du profond du cœur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire sentir que c'est moi qui a fait l'avéra. Et que c'est grave. Alors, bien sûr, au début, on va avoir l'impression qu'on n'est pas dans le coup. Mais ce qu'il nous dit là de Morazaken, c'est pour ça qu'on ne peut pas donner de principe. Plus on avance, plus je vais réfléchir à faire teshuva, et plus je vais réfléchir au fait aux choses spirituelles, un concept de Torah, et plus je vais quitter le matériel. Et plus je vais ressentir, je vais avoir le sens spirituel. Véhachénit. Alors, il va développer le deuxième, d'accord, et après on va revenir au premier.
Donc, de personnalité.
Ah oui, non, mais c'est vrai, on développe la schizophrénie.
100%. Hein. Oui, non, c'est...
Le judaïsme, si on ne fait pas le gaffe, on développe la schizophrénie. Hein. Tantôt le bien c'est moi et le mal c'est l'autre. Ouais. Mais c'est moi-même encore. C'est le diplôme de personnalité.
Il est goïme.
Hein. Non, je veux dire, on n'a pas l'impression, mais on dépasse une frontière, on est à l'ouest.
Hein. C'est sûr. Donc il dit, deuxième chose, Véhachénit. Et le deuxième point, donc premièrement, Yegiat Bassar, il faut avoir une fatigue, Bassar, c'est-à-dire la fatigue du corps, ça veut dire charnel. Enlever le côté, une fatigue charnelle, un effort charnel, enlever le côté, le sens matériel pour récupérer le sens spirituel. Véhachénit, Yegiat Anefesh, c'est quoi le deuxième effort? Yegiat Anefesh, c'est l'effort de l'âme, ça veut dire quoi? Shelo Tirbad, Alav, Alea Avoda, Liga, Machashafta, Lea Mikuleit Bonen, Bigdoula Tachem, Sha'ak Dolar et Tsufa. Le deuxième effort, c'est quoi? Premier effort, c'était de ne pas faire attention au décor. De ne pas faire attention au décor. Ça, c'est le premier effort. Pas faire attention au décor. Bon. C'est-à-dire, je suis dans un monde matériel, en plein Paris, avec toutes les bêtises qu'il y a. Fais comme si que t'es dans le Galilée. Bon. Je vais essayer. On va dire, disons que je vais me shooter, je vais réussir. Ok.
C'est ce qu'ils vont arriver, ils sont vraiment bien entourés. Ils
deuxième chose, c'est quoi maintenant? Véhachénit, c'est quoi le deuxième? Yegiat Anefesh, ça c'est le plus dur. À mon avis, ça c'est le plus dur. C'est quoi Yegiat Anefesh? C'est une fois que tu t'es écarté du décor de l'extérieur, maintenant, tu vas essayer de réfléchir à un point particulier jusqu'à que ça te casse les pieds. Alors on va réfléchir une minute, deux minutes, après ça te casse les pieds. Dis bon, ça y est, j'ai compris. Non, tu réfléchis encore. Jusqu'à que ça te casse les pieds. C'est exactement, je pense, c'est un super exemple, l'exemple qu'il a amené avec le prisonnier. Le prisonnier, qu'est-ce qu'il fait pour... Il essaye de se rappeler constamment comment c'était dehors. Alors au début c'est facile, mais quand vous lui demandez 3 ans plus tard, quand il a vu personne, de se rappeler comment c'était à l'extérieur, il réfléchit une minute, après il commence à voir un flou, et c'est dur. Ça lui casse les pieds, il dit bon ça va, j'ai compris. Non, c'est là qu'il faut tenir, qu'il faut réfléchir, et chercher dans le flou, jusqu'à ce que l'idée devienne claire. Et là c'est comme ça qu'il va garder le souvenir de ce qui se passait à l'extérieur. L'exemple du prisonnier est un super exemple. C'est la même chose qu'on a fait par rapport à la Neshama. Première chose, c'est de ne pas faire attention à ce qui se passe autour. C'est la première chose. Ça, c'est relativement facile encore. C'est bon, c'est dur, mais c'est relativement facile. Mais le plus dur, c'est quoi le plus dur? C'est Yegiat Nefesh, ça veut dire être capable de rester concentré sur un même point, d'accord, pendant plusieurs minutes d'affilée. De ne pas quitter le point, c'est très très dur.
Et quel rapport avec les Ratchamayim, ça?
C'est ça, parce que ça c'est Da'at, et Da'at va être le passe-partout pour arriver à les Ratchamayim. C'est quoi pourquoi on a du mal à craindre Dieu? Parce que Dieu c'est pas une valeur qu'on connaît. Donc le passe-partout c'est quoi? C'est le faire que le spirituel va être une valeur que tu connais. Donc on a deux choses à faire. Premièrement, on a dit Yegiat Bassar, c'est quoi? C'est écarter le matériel qui est autour de moi. Premièrement. Deuxième chose qu'il y a à faire, c'est quoi? Yegiat Bassar, c'est quoi? Ça c'est Yegiat Bassar. Yegiat Nefesh, c'est quoi la fatigue de l'âme? Ça veut dire être capable de rester concentré sur un même point pendant plusieurs minutes d'affilée.
L'étude, par exemple. L'étude.
Le long introspection.
C'est très très difficile. Je sais que par exemple, je vais donner un exemple. Une histoire que j'ai lu récemment du rabbi. C'est la femme du rabbi qui a raconté. Et j'ai entendu la même histoire aussi sur le rabbi Elkan. C'est une fois le
vent. Elkan, c'est le mémoire flash.
C'est le mémoire flash.
Il n'y a rien de pas cité de Elkan en ce
moment. C'est une fois.
Il a dit le rabbi pendant Shabbat.
Il a dit acheter un livre.
C'est l'élève qui est devenu comme le maître. C'est une première histoire que la rabbanide raconte. Donc la femme du rabbi racontait. Disait que, une fois, c'était un vendredi soir, et bon, elle est partie dormir, et son mari était encore en train d'étudier. Le rabbi, donc, était en train d'étudier. Donc il était dans une position, je ne sais pas s'il était assis ou debout, il avait un sefer comme ça, d'accord, un sefer, je crois que c'était un chumash, parce qu'il préparait le cours qu'il allait faire le lendemain, et le rabbi a fait beaucoup de sirot sur chumash rashi. Donc il était en train de s'approfondir sur un rashi. Bon. Elle a dit qu'elle est revenue le lendemain, je veux dire 7 ou 8 heures plus tard, et elle l'a revue dans la même position, même tête, le livre dans la même position, toujours en train de réfléchir. Elle a dû le réveiller, si je peux dire, et lui dire qu'il faut aller à la chute. Même histoire, j'entendais avec le Ravi Olkan, et ça j'ai entendu de quelqu'un qui l'a vu. Car c'est quelqu'un qui allait lui amener à manger dans son bureau qui est dans les bureaux, son bureau qui est dans les étages supérieurs du 770. Et donc il l'amène à manger tous les jours. Et il m'a raconté, hein, j'ai entendu, il m'a raconté, il m'a dit plusieurs fois quand il arrive, il m'a dit quand j'arrive, le Ravi Olkan est ailleurs. Ni il se rend compte que je suis rentré, ni il se rend compte que je suis sorti. Et il m'a dit des fois je reviens 5 heures plus tard pour lui ramener autre chose à manger, il n'a pas touché à son plat. Et il est dans la même position que j'ai laissé avant. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont réussi à se travailler pour être capables de réfléchir à un même point pendant des heures. C'est très très dur.
C'est très très dur parce qu'en principe, il pourrait rester comme ça je comprendrais. Mais en principe, ce qui se passe, c'est que l'esprit est vagabond.
Oui.
Et après, ça, tu pars à penser à autre chose.
C'est ça ce qu'il dit ici. Liga Mahashavta, d'accord, comme il dit, c'est la fatigue de l'esprit. Et je peux vous dire que ça, encore une fois, je reprends mon exemple de l'étude de la Gemara, c'est le plus dur dans la Gemara. C'est le plus dur dans la Gemara. C'est une fois que tu crois avoir compris, d'accord, de recommencer à réfléchir. Ça te prend la tête, ça te complaire. Et c'est là seulement qu'on va commencer à comprendre quelque chose. Donc deux choses. Yegiat, n'est pas ça.
Normalement, de ce que je sais, c'est l'aptitude à se concentrer longtemps sur un point, c'est une aptitude qui est reconnue chez les gens attardés mentaux.
Oui.
Parce que, étant donné qu'ils ont un esprit qui n'est pas très occupé, ça ne les dérange pas de rester concentrés longtemps.
N'accord.
Et eux, ils sont capables de rester longtemps
dessus. Oui, bien sûr.
D'où peut-être la personne que tu citais tout à l'heure,
qui
fait des calculs très rapidement et tout, parce que tout le reste de son cerveau est libre, il n'est pas occupé à penser à autre chose.
D'où les bébés qui sont capables de rester jouer pendant...
Un enfant, quand il est petit,
deux
il
heures
avec un jeu, le même jeu, il ne se fatigue jamais. C'est magnifique, il ne se fatigue jamais.
Ouais.
Et dès que la tête commence à s'occuper de plus de choses, un peu, au bout de 3 minutes, 4 minutes,
c'est fini.
Et en général, plus quelqu'un est intelligent, moins il reste longtemps
c'est
concentré.
Sûr. Ah, c'est sûr.
C'est inversement proportionnel. Mm-hmm. Les gens intelligents, en 2 secondes, ils ont la tête ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris, ils demandent autre chose.
Ouais.
Ils demandent autre chose.
Mais c'est ça qu'on a rien expliqué.
Celui qui n'a pas compris, il a besoin de plus de temps.
On a expliqué ici que le concept de date, c'est quoi ? C'est justement au moment dans lequel c'est au moment qu'on croit avoir compris. D'accord ? C'est là en vérité qu'il faut continuer à réfléchir.
Dire, c'est ça la difficulté. Si on a
très, très dur.
Quelqu'un qui a un
très dur. À 100%.
Un tamitracham, un rabbi, un gadol,
ouais.
Et il reste des heures sur une idée. C'est pas que c'est facile. C'est pas que c'est difficile. C'est insurmontable.
Encore plus
compliqué.
Difficile, c'est sûr.
C'est pas ça. Quelqu'un normalement constitué, il reste une demi-heure, c'est beau, mais...
Ouais. C'est très très difficile.
Il a intégré qu'il n'a pas compris, lui.
Comment ?
Il a intégré qu'il n'a pas compris. C'est pour ça qu'il reste.
Je sais pas s'il a intégré que c'est pas compris.
Je crois qu'on a compris, mais lui, il sait.
Essayez de réfléchir 5 minutes à quelque chose que vous avez déjà compris.
Voilà, un truc, t'es sûr que t'as compris. Voilà,
c'est très dur.
Tu prends un truc, tu sais, un rachis, pour reprendre le jeu de la Torah, où c'est vraiment profond. Un rachis clair, simple. Tu sais que t'as compris. Tu dis non. C'est très
très dur.
Encore. Non, mais maintenant, tu sais que oui, que non.
Non, quand on n'a pas compris, c'est facile encore.
Tu dis, voilà, je sais que j'ai pas compris. Je sais que j'ai compris, mais il faut que je me force à dire que j'ai pas compris. Combien tu tiens ?
Plus facile, Léon.
Oui. Son esprit qui prend le pas sur son
non, corps. Non, c'est bonne question. Il te dit que c'est une fatigue. C'est très fatigant. Bien sûr, c'est une fatigue physique. Julien, il demande. Bien sûr, c'est une fatigue physique. C'est encore plus fatigant qu'un effort physique. C'est très très fatigant. La fatigue de l'esprit, ça esquinte quelqu'un. C'est très facile. C'est très difficile.
Mais ça, c'est tout ce que font la méditation transcendantale, c'est ça. Le bouddhisme, c'est ça.
Bien sûr, c'est 100%, c'est ça.
Ça suffit, je comprends. Sur la concentration et ensuite sur le...
Seulement, la différence qu'il y a avec le bouddhisme, c'est quoi ? C'est qu'est-ce qu'on fait dans le bouddhisme ? Le but, c'est d'arriver à ce stade-là. D'accord ?
D'atteindre
ce stade-là. Après, tu t'arrêtes.
Alors
après, c'est fini.
C'est une clé.
Alors que nous, c'est une clé.
On a compris que c'est un moyen, c'est pas un but.
Ça, c'est plus rationnel, il explique ça longuement. Je voulais pas rentrer dedans, mais puisque tu l'as dit, Yvan. Explique la différence. Il parle beaucoup de choses.
Ouais, il a le même livre en français.
Non, non, j'ai pas sans âge, moi, dessus.
Lui, devant le rationnel, des fois, il s'éclate.
Non, mais t'as pas besoin de
il explique la différence qu'il y a entre le judaïsme et les autres religions, schizophrènes, si on peut dire, d'accord. C'est que dans ces autres religions-là, le but est d'arriver à ce stade-là. Une fois que t'es arrivé là, ça, c'est le but, ça y est. Le but, c'est de se shooter. Ça y est, une fois que t'es là, c'est fini maintenant, ça y est. T'as atteint le but. D'accord. Dans la Torah, c'est pas ça. Dans la Torah, le da'at, c'est seulement une clé pour arriver après à autre chose, à la crainte de Dieu, à l'amour de Dieu, à sentir Dieu. C'est une clé pour arriver à autre chose. C'est unique, ça.
Et je comprends pas qu'ils arrivent pas à ça aussi.
Non, mais peut-être qu'ils arrivent aussi à ça, mais c'est pas leur but.
Ça dépend du but que tu vises au départ. Hein. Ça veut pas dire qu'ils ne peuvent pas y arriver.
Oui, ils peuvent y arriver, mais c'est
pas... s'ils ne sont pas fixés comme but, ils s'arrêtent où ils ont demandé, ils ont espéré y arriver.
Et donc là, ça va répondre un peu à ta question de tout à l'heure, pourquoi on voit dans le judaïsme que le but, c'est l'action. Parce que tu vois, on va s'évader, mais uniquement pour mieux agir dans l'action.
Oui.
Tu vois
bon. Oui, parce que là, oui.
J'en ai alors, vu le chapitre écoutez bien ce qu'il dit maintenant.
On a peur des différences de G, hein. Ouais. On s'envole très très haut pour après, tac, sur Terre.
Kishiur Shazo. Donc tu me dis qu'il faut réfléchir longtemps. Alors, alors on a donné l'exemple du Rabbi et du Rabbi Elkan qui sont capables de réfléchir des heures durant. Mais pour nous, combien de temps?
Nous.
Ah, écoutez bien ce qu'il dit. Kishur shazo eno shaveh b'chol nefesh. Quand je te parle de cet instant que tu dois réfléchir, d'accord, de ce moment que tu dois réfléchir, il ne nous a pas donné de temps défini. Pourquoi? Parce que c'est pas pareil chez tout le monde. Yesh nefesh zacha betiva. Il y a des âmes qui sont... Il y a une âme qui est zacha, qui est pure, betiva par sa nature. D'accord? Comme l'âme d'un enfant, ou comme quelqu'un qui n'a jamais fauté. D'accord? Ou comme quelqu'un qui n'a jamais fauté, ou quelqu'un qui a une neshama qui n'est pas grossière. D'accord? Qui a une neshama qui n'est pas grossière. Ça, on a dit, ça dépend pas de nous.
Ça, on c'est bien, on dit que ça, c'est le niveau de...
Shemiya, Shemit Bonnenet, Bigdulat Hashem, Yagia Elea, Aira ou Fahad Hashem. Une neshama comme ça, que dès qu'elle commence à réfléchir à la grandeur de Dieu, tout de suite, elle va se mettre à le craindre. Bajgacha Pratid, regardez, que moi je ketoub et Shouchanor, Ora Chaim Siman Aleph, comme c'est écrit dans Shouchanor, qu'on vient de commencer à étudier mardi dernier, on l'a étudié mardi dernier, mardi matin. Siman Aleph, Shemit Bonnen à Adam. Qu'est-ce qu'il dit là-bas le Rama? Il dit que Shemit Bonnen à Adam, Shamelech Hagadol. Quand l'homme va réfléchir, Shamelech Hagadol, Melech Malcha, Malachim Akadosh Baruchu, que le grand roi, d'accord, le roi des rois, Akadosh Baruchu, Hashem Lo Kol Haaretz Kvodo, que son honneur remplit la terre, Omed Alav Vero Bemaasav, quand on va réfléchir que ce grand Dieu-là, Omed Alav, il se tient sur moi, donc il est en train de me regarder, Vero Bemaasav, il voit ce que je fais, Miyad Yagé El Aveira, tout de suite je vais me mettre à craindre Akadosh Baruchu. Bon. Morazakan dit, attends deux secondes, on a essayé, moi j'ai essayé le matin, ce matin j'ai essayé, dès que je me suis réveillé, j'ai essayé de penser à Akadosh Baruchu, j'ai pas eu une ira qui est venue sur moi. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Shouchanor raconte du pipeau? D'accord? Le Mourazakani, de qui on parle? On parle d'une personne qui a une nefesh zacha betiva. Une personne qui a une âme, d'accord? Qui est pure par nature. Ça n'a aucun rapport avec l'intelligence. Quelqu'un qui a une âme pure. Et que cette personne-là, dès qu'il se met à réfléchir à la grandeur de Dieu, tout de suite, il est parti. D'accord? Bon. Veyesh nefesh fela betiva. D'un autre côté. Donc, une neshama comme ça, est-ce qu'elle a besoin de réfléchir longtemps? Le premier obstacle, ça va prendre un peu de temps, parce que le premier obstacle, c'est quoi? C'est qu'il faut quitter le matériel. Bon, oui. Ça va prendre du temps, peut-être. Non. Mais après, la deuxième chose qui est se concentrer sur quelque chose pour réveiller un sentiment. C'est facile. Parce qu'il a une âme qui est pure par nature. D'accord? Yesh, nefesh, fela, betiva, vetodlatam, mkochutva, imadregot, artenot, de yutsura, dasia, ya, de l'autre côté, une âme qui est basse. Comme la majorité des neshamot d'aujourd'hui, puisque les neshamot d'aujourd'hui, on dit que les neshamot de la fin des temps, c'est les neshamot les plus basses. Betiva vetoldata. Donc on dit qu'il y a une nefesh qui est basse par nature. Ça veut dire que c'est quelqu'un que c'est pas forcément qu'il a fait d'avérance, mais même s'il essaye de réfléchir, il a beaucoup de mal. C'est-à-dire qu'il réfléchit une minute, ça lui fait rien. Le gars le matin quand il se réveille, il pense à Dieu, ça lui fait rien. Ça lui fait rien. Il a essayé, ça lui a rien fait. Velo tucha limtso bemar shafta ha'elokut ki im bekoshu vechazka. Le sens spirituel ne pourra être développé chez cette personne-là que très difficilement. Vraiment, il va se casser les pieds pendant 5, 10 minutes, 15 minutes, et à la fin, il aura un flou, il va se dire, ah, c'est ça! Il aura comme un flou, c'est un petit peu comme le Maïmonide explique la névoie, la prophétie. C'est quoi la prophétie explique Maïmonide? Il dit que la personne va se fatiguer, et c'est comme si qu'on marche dans une pièce obscure, et à un certain moment, il y a un brin de lumière. Et après, il s'en va. Ça, c'est le Maïmonide, il dit, ça, c'est la névoie. Ça, c'est la prophétie. C'est pour ça que des fois, les prophètes, ils comprennent pas ce qu'ils ont vu. Pourquoi? Parce qu'il marche dans l'obscurité, il marche, il essaie de réfléchir, il se met dans un état second, et à un moment il voit un éclat de lumière, et après il s'en va. Et peut-être que l'éclat de lumière ne reviendra pas jusqu'à plusieurs jours plus tard. C'est exactement ce qui se passe. Oui. C'est exactement ce qui se passe. La névoie, ça vient par un travail.
Roi Kodesh, c'est quoi?
Roi Kodesh, c'est le Saint-Esprit. Enfin bon, le Saint-Esprit.
Mais t'as l'explication avec toi.
Non,
t'as l'explication avec toi.
Le bon.
Ouais.
Hein, l'esprit saint.
La version originale.
L'esprit saint.
Ouais. L'esprit saint. La version originale, pas la V2.
Mais la version au Vatican.
Mais la V2 en général, elle est améliorée, c'est pour faire attention.
On est en V3 ce soir.
Oui, alors.
C'est
iPhone.
C'est l'explication qui va avec.
De que quoi?
Roi Hakodesh,
oui, Roi Hakodesh, en général, c'est beaucoup plus fort que la névoie. Donc, de la même manière, il lui dit de la même manière, cette personne-là, on a une neshama de quelqu'un qui, on a une neshama, donc la majorité de nos neshamot, d'accord, qui a une neshama qui est basse, d'accord, qui est basse et qui vient d'un niveau très bas, que même s'il va se fatiguer, il va se casser les pieds, il va se travailler, mais à la fin, au final, il arrivera qu'un sentiment flou, et ce sentiment-là va partir très vite. Ou bifrat, et surtout, imutmia bechatot neurim. Donc rappelez-vous, d'accord, on reprend l'exemple du prisonnier, premièrement ne pas faire attention au décor, deuxièmement, se rappeler constamment comment c'était dehors. Donc la même manière pour la Neshama, premièrement, ne pas faire attention, quitter le sens matériel pour récupérer le sens spirituel, c'est premièrement. Et deuxièmement, dans le sens spirituel même, essayer de se rester concentré sur quelque chose pour éveiller encore plus le sens spirituel. Ça, la Demoiselle Zakani dit, je ne peux pas donner un temps de réflexion, il y a des gens chez qui ça va venir très rapidement, il y a des gens chez qui ça va prendre longtemps, au bifrat, et surtout, imutmea bechatat neurin. Surtout, si la Neshama, on peut avoir une Neshama, on peut être né avec une Neshama. Alors quand on peut parler, donc même si c'est une Neshama qui était pure à la base, mais si c'est une Neshama qui a été impurifiée par les fautes de la jeunesse, il faut savoir que quand on parle des fautes de la jeunesse en général, on parle des fautes autour de la Brit Mila, d'accord? Donc des fautes de tout ce qui peut être les pertes nocturnes, d'accord? Volontaires surtout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Khatot Neorim. Khatot Neorim. Et ça, on dit, comme il dit ici, que Moshe Katouv, Shavonot Mavdilim, que Moshe Katouv, be Sefer Chassidim, Siman Lamede. Qu'est-ce qu'il écrit dans Sefer Chassidim? Sefer Chassidim, il explique là-bas longuement, il explique que cette avéra particulièrement, il explique la chose suivante. Il dit que, c'est d'ailleurs un concept qu'on a expliqué dans le premier chapitre du Tanya. On a expliqué que quand on fait une avéra, il y a deux choses qui se passent. Premièrement, quand je fais l'avéra, ce qui se passe, c'est que j'ai fait une avéra, je vais être puni. D'accord? Bon. Alors ça, le fait que je vais être puni, la punition va dépendre de beaucoup de circonstances. De qui j'étais, dans quel contexte je l'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait teshuva. Donc ça, la punition, à la limite,
Yom Kippour.
Ça va dépendre de chaque personne. Ça, c'est un premier point qu'on fait quand on fait une avéra. Mais un deuxième point quand on fait une avéra, c'est qu'on fait un dégât.
Et ça, le dégât,
peu importe le niveau qu'on a, on peut être un tzadik, on peut être un rachat, mais le dégât reste le même. On a fait un dégât dans le monde. On a éloigné la venue de Mashiach, pour reprendre ce qu'il expliquait dans le chapitre 29. Et il explique dans Sefer Chassidim que dans la avéra des pertes nocturnes, il dit que dans cette avéra-là, la tâche qu'on fait est beaucoup plus forte que dans les autres avérantes. Pourquoi? Parce que dans cette avéra-là, on prend de la force qu'on a en nous, de la force de pouvoir donner naissance. Et il explique comme ça. Il dit que à Kadosh Baruch Hu, il nous a donné en nous la force de le ressembler. La seule chose dans laquelle on ressemble réellement à Kadosh Baruch Hu, c'est en ce qui concerne notre Brit Mila. Pourquoi? Parce qu'on est capable de créer. Alors, c'est vrai qu'on ne crée pas à 100%, d'accord? Mais c'est pratiquement une création, parce que on procrée. C'est déjà quelque chose de très fort.
C'est pas ex nihilo.
Et quand la personne fait une avéra avec cet outil-là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on prend une force très très forte que Kadosh Baruch Hu nous a donnée. Une force qui est tellement forte que par rapport à cette force, on ressemble à Kadosh Baruch Hu.
Oui.
On prend cette force-là et on va faire une avéra avec ça. C'est pour ça qu'il explique Sefer Chassidim, la tâche qu'on fait, le mal qu'on fait. On parle pas de la punition. Parce que bon, la punition, il y a peut-être d'autres avérotes qui sont plus graves. D'accord? Et c'est même pas forcément une avéra. C'est pas forcément une avéra. C'est le Zohar qui explique que c'est très grave, mais c'est pas forcément une avéra minatora, ça veut dire qu'il y a des avérotes qui sont beaucoup plus graves. Par exemple, transgresser le Shabbat, c'est beaucoup plus grave que ça.
On a vu que c'était tellement grave.
C'est beaucoup plus grave par rapport à la punition. Ça, c'est ce qui fait que
c'est
par rapport à la punition, par rapport au Nesh, certes, c'est plus grave. Mais par rapport au ciel, par rapport aux dommages qu'on fait, d'accord? Par rapport à l'impact qu'on va faire, ça explique Sefer Chassidim, il dit c'est la vera la plus grave qui peut exister. Parce qu'on va prendre de la force de Dieu, on va prendre une force en nous dans laquelle on ressemble à Kadosh Baruch Hu, pour faire une avera. C'est-à-dire c'est comme si qu'on va faire descendre, comme il dit dans Sefer Chassidim, on va faire descendre à Kadosh Baruch Hu dans la saleté. C'est la vera la plus grave qui peut exister par rapport à ce dommage-là. Qu'est-ce qu'il dit à Edmond Razaken? Il dit ça peut être une raison aussi pourquoi des fois une personne essaye de réfléchir à quelque chose de spirituel, on essaye de faire teshuva. D'accord? Ça peut être avant Yom Kippour, ça peut être même à un moment de l'année, on essaye de faire teshuva, et on voit qu'on n'en a rien à faire. Là, je m'en fiche. J'essaye de réfléchir, c'est pas bien ce que j'ai fait, mais je m'en fiche. Je m'en fiche, j'en ai rien à faire. Je réfléchis, je dis ok, c'est pas bien, je comprends. Je sais que c'est pas bien, mais je le sens pas. Ouais. C'est ce fameux sens spirituel.
Ouais.
Je comprends que c'est pas bien, d'accord? Je comprends que c'est pas bien, je peux même l'enseigner, je peux être professeur d'éthique, d'accord? Mais je le sens pas. D'accord? Professeur d'éthique, j'enseigne comment faire l'éthique. Mais je le sens pas. Ça explique Edmond Razaken. Ça veut pas dire forcément qu'on a une neshama qui est grossière. Peut-être qu'on a une neshama qui était pure, mais à cause de nos avérotes, surtout à cause de ces avérotes-là, ça fait que la neshama est plus grossière. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est cuit à vie, c'est fini? Il dit non. Mikol makom. Mais koshi ou vechoska, même une personne comme ça, avec difficulté, avec force, c'était trazek mod marchafto. Encore une fois, on peut pas donner de temps, parce que des fois même une minute, ça peut être difficile. Mais réfléchir à quelque chose en une minute, ça peut être difficile. On le voit pendant la Amida. D'accord ? Des fois, réfléchir à une chose pendant même une minute, réfléchir à la même chose, ça peut être difficile. Donc, il nous dit la Gemara Zaken, même une minute, c'est de réfléchir que c'est pas bien ce que tu as fait. Et ben koshi ou vechoska, je dis trazek mod marchaste vomet vegir abba vomet gadol, le amid bigdula tachem shak dola, be vadaï tagi ela valkolpani mariatata anal. Dit la Gemara Zaken que même une personne qui, peu importe si j'avais une bonne neshama à la base, j'avais pas une bonne neshama à la base, enfin une neshama grossière ou pas grossière, mais si j'ai fait de la véroce et qu'à cause de ça, je vois que j'ai du mal à sentir le sens spirituel. Dit la Gemara Zaken, avec la fatigue, c'est sûr que tu vas réussir. Comme le Chachamim ils ont dit. Yagati ou Matsati, Tamin.
Pardon.
La Gemara Megillah, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, alors c'est vrai que la Gemara le dit par rapport à l'étude de la Torah, mais la Gemara Zaken applique ça par rapport de manière générale au service divin. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara dit, si quelqu'un te dit, je me suis fatigué,
j'ai
fait des efforts et j'ai trouvé, Tamin, tu peux le croire. Si maintenant quelqu'un te dit, Yagati velo Matsati. Si quelqu'un te dit j'ai fait des efforts et je suis pas réussi, j'ai pas trouvé.
Ne le crois pas.
Ne le crois pas. Alors on pose la question, on dit mais pourquoi tu le crois pas? Peut-être qu'il a essayé, qu'il a pas réussi. C'est possible, non? Techniquement c'est possible. Pourquoi tu le crois pas? Explique la Gemara Zaken. D'accord? Dans d'autres endroits, ça veut pourquoi tu ne le crois pas? C'est pas que je le crois pas qu'il a pas trouvé, je sais qu'il a pas trouvé. Je ne le crois pas, ça veut dire que je ne crois pas qu'il s'est fatigué. Parce que s'il se serait réellement fatigué, s'il avait fait réellement assez d'efforts, c'est sûr qu'il aurait réussi. C'est ça ce qu'il dit la Gemara Zaken. Morazakhen dit que même une personne comme ça qui a fait d'Averot, il lui dit, il suffit de faire des efforts. Il suffit de faire des efforts et quand tu vois que ça commence à te sortir du nez, c'est là que ça va rentrer. Quand tu vois que ça te prend la tête, c'est là que ça va rentrer. Essaye de réfléchir que c'est pas bien ce qu'on a fait. Essaye de retrouver le sens spirituel. Essaye de faire que le spirituel, comme on l'a expliqué tout à l'heure, soit autant réel que le matériel. Et là, Morazakhen nous dit, comme les Chachamim nous disent, il y a Gati ou Matsati Tamin, si on va faire un effort, c'est évident qu'on va trouver. Bon. Donc on s'arrête ici, Bezrat Hashem, on continuera sur le sujet la semaine prochaine, on va développer sur le Da'at. Donc aujourd'hui on a développé le Da'at sur deux points. On a expliqué qu'est-ce que c'était le Da'at. Le Da'at c'est le passe-partout pour arriver aux autres sentiments, pour arriver à la crainte de Dieu, à l'amour de Dieu. Pourquoi c'est un passe-partout? Parce que le Da'at c'est ce qui nous permet de nous attacher à la chose, d'intérioriser la chose. On a expliqué que pour intérioriser quelque chose, il fallait travailler sur deux pistes. Premièrement, il fallait écarter les obstacles extérieurs. Et deuxièmement, il fallait se travailler intérieurement. Donc, premièrement, se travailler sur les obstacles extérieurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire quitter le matériel, itkafia. Quitter le matériel pour petit à petit réveiller, éveiller en soi le sens spirituel. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est quoi? Yegiat nefesh, ça veut dire se fatiguer dans son âme, ça veut dire quoi? Là, ça veut dire se travailler spirituellement, essayer de rester concentré sur un même point, de réfléchir, jusqu'à ce qu'on sente que ça nous concerne. Et une fois qu'on va arriver à ce niveau-là de Da'at, qu'on va intérioriser la chose, ça, ça sera le passe-partout pour pouvoir arriver à ce qu'on veut, à craindre Dieu, à l'aimer, à tout ce qu'on veut. On continuera à développer Bezrat Hashem ça la semaine prochaine. Voilà.